Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des analyses, des articles sur la sociologie du sport de haut niveau pour les athlètes en situation de handicap.
Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu les enjeux clés, les paradoxes aussi, et puis de voir ce qui se dessine pour l'avenir de ces sportifs.
Exactement, parce qu'on voit souvent la grande célébration, par exemple pendant les Jeux paralympiques, mais notre mission, c'est d'aller voir un peu derrière cette lumière parfois très intense, qu'est-ce qui se joue vraiment.
C'est ça, et les sources qu'on a consultées, elles montrent bien ce contraste. D'un côté, la fête médiatique qui peut être un peu éphémère, et de l'autre, une sorte de marginalisation qui, elle, a des racines plus profondes, historiques, structurelles même.
Bon, alors, allons-y. Le premier gros point qui ressort, c'est cette question du stigmate et de la visibilité. Une visibilité un peu en dents de scie, non? On parle de racines historiques.
Oui, on remonte loin, avec des figures comme William Hay au 18e, qui évitait les foules. Aujourd'hui, ce stigmate, il est plus paradoxal. Pendant les Jeux, effectivement, il y a une hyper-visibilité.
Une sorte de projecteur braqué.
C'est ça, une surexposition même, qui mélange un peu la fascination, mais parfois aussi un certain malaise, une forme de curiosité un peu étrange face aux corps différents.
D'accord.
Mais le problème, c'est que cette visibilité très concentrée, elle cache souvent une sous-représentation médiatique le reste de l'année. On l'a vu en France, avant 2016, c'était compliqué d'avoir une couverture en direct conséquente. Et même quand il y a couverture, on se focalise souvent sur certains handicaps peut-être plus spectaculaires, ou alors on insiste sur ce préfixe « para » qui veut dire « à côté d'eux ». Ça renforce un peu l'idée d'un sport de second rang, quoi.
Et cette visibilité très ciblée, parfois un peu sensationnaliste, est-ce qu'elle ne crée pas ou ne renforce pas ce que les sources appellent le mythe du super-crip ?
Le super-héros du handicap ?
Ah, on est en plein dedans. C'est un risque majeur souligné par des chercheurs comme Charlotte Puiseux. L'intention de départ, elle peut sembler positive, valoriser l'exploit. Mais la critique, c'est que ça compare toujours, implicitement, à la norme valide.
Comme si le but ultime était de compenser. Exactement. On célèbre celui qui dépasse son handicap, l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Et ça, ça a tendance à masquer toutes les barrières bien réelles, les obstacles systémiques que rencontre la majorité des personnes. Et on tombe vite dans ce que certains appellent l'inspiration porn.
C'est-à-dire ?
L'idée que l'exploit de l'athlète sert surtout à inspirer, à émouvoir, voire à faire relativiser le public valide sur ses propres petits problèmes. Ça déplace le regard des vrais enjeux sociaux.
Et la technologie là-dedans ? Je pense aux prothèses en carbone, tout ça, ça joue pas aussi sur cette image du dépassement, voire d'une forme de hiérarchie ?
Tout à fait, c'est un point important. Cette fascination pour le corps augmenté, technologiquement avancé, peut créer une sorte de fossé entre les athlètes high-tech et les autres. Ça complexifie encore les choses.
Et ça nous amène peut-être à une autre notion clé des sources-état, la liminalité.
Oui, la liminalité. C'est un concept issu de l'anthropologie avec Van Gennep, puis repris par Murphy pour le handicap. C'est cet état d'entre-deux, ni totalement dedans, ni totalement dehors.
Comment ça s'applique aux athlètes paralympiques ?
Ils sont souvent dans cet espace un peu flou. Ils font partie du grand spectacle sportif mondial, mais via un circuit parallèle. L'intégration n'est pas complète, ils ne sont que rarement mis sur un pied d'égalité totale avec le circuit dit « valide ».
Et ça se voit concrètement, non ? Après les Jeux, beaucoup retombent dans un certain anonymat. Les sources suggèrent même que la façon dont on raconte leurs histoires, souvent par des journalistes valides, maintient cette distance.
Oui, c'est un cercle un peu vicieux. La narration médiatique a du mal à sortir de ce cadre du héros exceptionnel ou de la source d'inspiration.
Est-ce qu'on peut illustrer ça avec des parcours concrets, par exemple ?
Prenons Axel Alétru en France. Son histoire est incroyable. Grand espoir du motocross, accident, paraplégie, et puis il revient au plus haut niveau en rallye raid, au Dakar, en compétition face à des pilotes valides.
Oui, c'est souvent présenté comme l'exemple type de la résilience, du super creep.
Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa performance elle-même, le fait de rivaliser avec les valides, ça brouille les lignes. Ça devient un argument très fort pour une intégration qui dépasse les catégories handicapées valides.
On peut penser aussi à Tatiana McFadden aux États-Unis. Son combat a commencé très tôt, au lycée, juste pour avoir le droit de courir avec ses camarades valides.
Oui, et ça a mené à une loi qui porte son nom. Et ensuite, son activisme pour l'égalité des primes entre athlètes olympiques et paralympiques, ça illustre parfaitement cette lutte contre la séparation structurelle, contre cette liminalité.
Donc ces exemples montrent que les choses peuvent bouger, soit par la performance qui force le respect, soit par l'action collective.
Absolument.
Ce sont deux leviers puissants pour sortir de cette position à côté.
Alors justement, si on se tourne vers l'avenir, quelles sont les pistes évoquées dans les recherches pour aller vers plus d'intégration ?
Il y a clairement une tendance vers un rapprochement plus marqué entre Jeux olympiques et paralympiques. On le voit symboliquement avec Paris 2024 ou de façon plus intégrée dans des modèles comme les Jeux du Commonwealth.
Mais au-delà du symbole des Jeux ?
C'est l'égalité de traitement au quotidien qui est centrale. La parité des primes, c'est un combat important. Equal pay for equal medal, comme on dit aux US, et la France y est mise aussi. Mais ça passe aussi par un accès égal aux infrastructures, aux moyens d'entraînement, aux sponsors.
Les sponsors, c'est un point clé, j'imagine.
Oui, et on commence à voir des marques qui intègrent des athlètes paralympiques, non plus comme des exceptions touchantes, mais comme des figures sportives à part entière, des ambassadeurs crédibles. Ça, c'est un signe encourageant.
Et le rôle des médias dans tout ça ? Comment peut-il évoluer ?
Il est crucial. Il faut plus de couverture, c'est sûr, mais aussi une meilleure couverture. Sortir des récits stéréotypés du super creep ou de la victime.
Comment ?
Une piste, c'est d'impliquer davantage de journalistes, de consultants eux-mêmes en situation de handicap. Pour changer le regard de l'intérieur. Et puis, miser sur des formats différents, comme le documentaire Rising Phoenix, qui a eu un bel impact, ou des campagnes globales comme We the 15, qui lie sport et droits des personnes handicapées.
Mais il reste des défis complexes, hein. La classification des handicaps, par exemple, c'est un casse-tête permanent pour assurer l'équité.
Effectivement, c'est un débat technique, mais essentiel au sein même du mouvement paralympique. Et il y a aussi la question de l'inclusion de certains types de handicaps, comme les handicaps intellectuels ou psychiques, qui est encore limité dans de nombreuses disciplines.
Donc, si on essaye de résumer ce que nous disent ces documents, on a un paysage qui bouge, c'est clair. Plus de reconnaissance, une volonté d'intégration plus forte.
Oui, les lignes bougent. Peu provocatrice que ces sources nous invitent à avoir, c'est celle-ci. La véritable inclusion, elle sera peut-être atteinte moins par la célébration constante de l'exception que par la banalisation, en quelque sorte.
La normalisation.
Voilà. Le jour où un athlète paralympique sera vu d'abord et avant tout comme un athlète, point, dont la présence au plus haut niveau est juste attendue, normale, intégrée dans le sport mondial, et pas systématiquement ramenée à une histoire inspirante ou à une performance à part, quand on n'aura plus besoin de le souligner en permanence.